Les Français votent massivement au régional à gauche. Ils disent clairement non au traité hyper-libéral européen et votent dimanche dernier massivement pour le candidat le plus libéral du panel. Ils soutiennent ainsi, en outre, le parti le plus oui-ouiste sur cette question. Leur nom, rappelons-le, c'était Nicolas Dupont-Aignan, qui a disparu au cours de la campagne. Alors que, par exemple, au PS, on intègre le MRC, ils intègrent aussi l'Hénoniste de leur propre chapelle. Également, les Français donnent la palme d'or du gouvernement le plus impopulaire à celui qu'ils vont reconduire en votant Sarkozy. Il paraît que l'écologie préoccupe les Français, qui viennent de donner 31% au candidat qui s'implique le moins dans le pacte écologique et qui, par exemple, ne souhaite pas de moratoire sur les OGM, qui place le ministère de l'Environnement à la dernière place, qui est pro-nucléaire, entre autres. Sans compter que les Français semblaient aussi attachés à la loi de 1905, enfin, je croyais, ils semblaient être contre les Golden Parachutes, pour le moins méfiants vis-à-vis du MEDEF, écœurés par les profits du CAC 40 qui augmentent avec le nombre des précaires, et également opposés à 82% aux idées du Front National, enfin, je pensais. De plus, on pourrait s'amuser à remarquer que la campagne du deuxième tour commence avec un argument qui serait comme quoi une énarque ne serait pas capable d'être présidente. Quand même un comble. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose de pas logique. C'est fou, mais grâce à ce vote de dimanche, maintenant, tout le monde le sait, le monde entier le sait. Les Français ne sont pas cartésiens.
Je voudrais vous dire que l'on ne compte pas sur moi pour aller voter au deuxième tour. Je ne tiens pas à voter Ségolène. Mon père m'a appris de ne pas faire confiance aux socialistes. J'ai 72 ans et j'ai pu le constater par moi-même, car ils ont toujours le cul assis entre deux chaises. J'ai pu le constater toutes ces années. Et ils n'ont jamais reporté leur voix sur les communistes, préférant la droite. Et si l'on en est là, c'est bien de leur faute. On a bien vu Mitterrand. Donc maintenant, je leur envoie la balle. Voilà. Au revoir.
Bonjour. Je suis une très vieille auditrice de France Inter. J'ai 83 ans. Et je dois dire que j'aime beaucoup Daniel Mermet. On lui pardonne tous ses défauts parce qu'il a des émissions intéressantes. On sait qu'il est de gauche, évidemment. Mais là, quand même, qu'il mette un peu la pédale douce de temps en temps... Là, qu'il arrête aujourd'hui de bouffer du sarco comme il le fait quand même. On veut bien lui pardonner tous ses défauts, mais bon, point trop d'infos, hein. Bye.
Le laboratoire Futurex vient d'obtenir l'agrément pour commercialiser son nouveau produit, l'Instantanox. Il est présenté en comprimé soluble par la salive. Et dès que le bébé est né, dans les 6 premières heures, on place le comprimé sous sa langue. Au bout de 4 minutes, voilà ce qui se passe. Si au milieu du front une lumière bleutée apparaît, le petit sera pédéraste à l'état adulte. Si une lumière rouge apparaît, le bambin sera un tueur irascible. Si une lumière verdâtre apparaît, le bébé sera amené à se suicider dans les années à venir. Si aucune lumière n'apparaît, le petit sera adorable. À noter que ce nouveau produit est inoffensif. Aucun effet indésirable n'a été constaté durant la période d'essai. À la Bourse de Paris, la cote du laboratoire Futurex a augmenté de 150%. Et ce laboratoire a obtenu des félicitations du président de la République.
Je vote pour Nicolas Sarkozy, pourtant je ne suis pas riche, pas xénophobe, mon arbre généalogique préfigure l'Europe de demain, pas raciste, une photo de ma petite famille suffirait à vous en convaincre, je suis respectueuse de mon prochain et généreuse. J'ai bien quelques défauts, mais dans l'ensemble, je me trouve modeste et géniale. J'ai aussi quelques talents de statisticienne qui me font dire que sur la planète, les bons et les imbéciles sont harmonieusement répartis dans tous les milieux. Je vous embrasse, Marie-Françoise Duvar.
Mais encore, ça c'est les plus gentils, le répondeur de la page. Si j'y suis, il est plein de politiques, de points de vue, d'analyse et pas mal de choses qui fâchent, dans tous les sens d'ailleurs. Et oui, c'est l'époque, c'est la passion politique qui se reflète dans le répondeur de la base, si j'y suis, et c'est bien passionnant, même s'il peut arriver que certains messages à caractère humoristique ou second degré soient pris au premier et que il y ait ainsi des malentendus. Aujourd'hui, on s'était promis de vous apprendre à trader sur le forex, à gérer des stops de protection, à vous initier à la pratique des chandeliers japonais, etc., etc., c'est-à-dire les mystères du trading. Eh bien, ce sera pour demain. Vous ne perdez rien pour attendre parce qu'on a décidé de faire une fugue. Voilà. On va faire une fugue aujourd'hui avec Pascal Le Pascariello. On va prendre la tangente. On va se tirer. Et vous allez voir dans quelle direction. Auparavant, deux choses à vous dire. L'une, c'est la publication d'un très joli livre de l'ami Claude Villers, dont vous vous souvenez bien sûr, qui s'appelle Parigot, tête de veau, la mémoire amoureuse d'un Parisien, où notre Claude Villers se balade dans sa mémoire, dans ses rues de Paris. Et puis, auparavant, avant de se tirer, de se barrer, et de se faire la belle, et de se faire la paire, on va se faire la paire. Mon papa disait se faire les adjas. On va se faire les adjas. J'ai jamais compris où ça venait. Où est-ce qu'il avait trouvé ce mot, se faire les adjas? Voilà, c'est ainsi. Auparavant, donc, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse Issue au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Franck, voilà. Je vous appelais simplement, bon, pas, c'est pas que j'aime votre émission, mais vous êtes une émission qu'on peut appeler. Et voilà, bon, moi je suis assez satisfait des résultats de la présidentielle, là. Bon, monsieur Sarkozy est bien placé, et bon, ce que je regrette un peu, c'est le score de monsieur Le Pen, parce que ce qui serait l'idéal... c'est bon, moi j'ai voté Sarkozy, hein, c'est pas le problème, mais avec un FN fort, au moins ça pousse la droite à être de droite et de pas avoir peur de ses idées. Et après des années de chiracisme mou, c'est bon d'avoir un homme un peu à poigne, quoi. Voilà, donc c'est peut-être l'effet positif d'il y a 5 ans, c'est qu'on ça, je pense que ça a propulsé quelqu'un comme monsieur Sarkozy, qui est quelqu'un qui a pas honte de ses idées et qui aura pas honte de les mettre en application. Et puis peut-être aussi qu'avec un monsieur Le Pen au deuxième tour, ça aurait amené monsieur Sarkozy à donner des ministères au FN, à monsieur Le Pen ou à monsieur Bonniche, et ça aurait remis un peu d'ordre dans tout ça, quoi, dans toutes ces banlieues avec des la délinquance et tout, et qui est souvent de la délinquance. Enfin, vous allez me traiter de raciste encore, mais c'est pas du racisme, c'est la vérité. C'est une délinquance qui est quand même majoritairement arabo-musulmane. Voilà. Et puis qu'on aurait peut-être nettoyé nos ondes aussi, mais on aurait peut-être perdu un répondeur pour s'exprimer. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite quand même une bonne continuation, et voilà, et j'espère que monsieur Sarkozy sera largement élu et qu'il aura pas peur de mettre son programme en application. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, c'est Eliane de Lyon. Eh ben, je voulais te dire que peut-être ce sera la première fois que je vais m'abstenir au deuxième tour. J'ai déjà 54 ans, je vote depuis l'âge de 21 ans. En règle générale, au deuxième tour, depuis quelques années, je votais blanc puisque je refuse de jouer dans, je refuse de rentrer dans ce jeu théâtral, le droite-gauche qui est une fausse droite, une fausse gauche, c'est l'un et l'autre, c'est du théâtre. Et ben, cette fois, je me dis qu'enfin, je vais quand même profiter, je vais pas sacrifier mes vacances pour voter contre l'un ou contre l'autre. C'est pas ça la politique, c'est voter pour des idées, pour autre chose. Je suis fort déçu du résultat des élections, parce que moi je travaille à France Télécom et les collègues ont été privatisés par Jospin avec Ségolène comme ministre. Ils ont été votés Ségolène et Sarko aussi, qui veut supprimer les fonctionnaires. Je ne comprends plus très bien comment les gens réfléchissent la politique. Voilà, au revoir.
Bonjour, c'est Marion Devanne. Dahan nous avait promis un canular pour assurer une certaine égalité entre les deux candidats. J'attends toujours. Sarko et lui sont de bons amis. Au revoir, bonne journée.
Toujours, on aspire à la liberté.
Pour toujours. Adieu à quelqu'un. On s'évade toujours de prison.
Et ne pas, surtout, ne pas tourner, reculer en arrière. on s'est dit, on s'en va. Et le lendemain matin, mes parents, quand ils sont réveillés, j'étais plus là.
Si j'ai peur, je pars pas. Mais j'ai pas peur, je pars.
Même quand on est dehors, on voudrait s'évader quelquefois aussi d'une autre façon.
Et donc, la liberté, c'est quelque chose pour moi qui tient à ce rêve, à la possibilité de...
Salut, c'est Daniel Mermet, la basse, j'y suis avec Pascal Pascariello. La belle.
Flight number 2, arriving from New York.
Attenzione, si informa la Nintendo che causa inconveniente tecnico al materiale stabile. Il treno Italia 2197 delle ore 16:55. Pronto alla finale 5, partirà con la
la cerise, la tangente, la fugue, la fuite, l'évasion, se casser, se débiner, se tirer, s'arracher, mettre les bouts, mettre les adjas, mais le plus beau c'est la belle, se faire la belle. Si on ne l'a pas faite, on en a rêvé tous, toutes. Partir, rompre les amarres, tout quitter, jouer la fille de l'air, quitter la maison, couper le cordon, couper les cons, avant le jour, laisser un mot sur la table de la cuisine, ou pas de mot du tout, et sans se retourner, prendre le baluchon et en avant, par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est douce la liberté, tout enfant en arrivé. Et heureusement, très peu le font. Enfant ou ancien enfant, vieillard fuyant les maisons de redressement pour vieux. Et si au fond, on était tous en prison sans le savoir, enfermés dans d'invisibles cages et d'invisibles barreaux, manteaux, mitards idéologiques, cellules politiques attachées, pieds et poings liés à nos passions et à nos maîtres, les champs, nos chaînes et nos colliers, et regardant la liberté passer avec les yeux vides, comme un eunuque devant l'origine du désir. La plus terrible des cages, c'est celle où est enfermé celui qui se croit libre. C'est à l'oreille de ces prisons inconscientes que parle celui qui parle de la belle, le roi de l'évasion, le coup du tunnel creusé avec le manche de la petite cuillère, la respiration, la nuit, dans les buissons avec les projecteurs des miradors au-dessus, le passager clandestin, dans la malle, dans la cale. Les instants, les images de cette sorte réveillent obscurément chacun de nous l'oiseau infini de la liberté que nous avons transformée en volaille de basse-cour, en dindon obèse. Quelle plus belle expression que la liberté ou la mort. Je me souviens d'une chanson qui disait « J'ai jeté ma clé dans un tonneau de goudron et je ne rentre plus jamais à la maison ». Aujourd'hui, avec Pascal Pascariello, la belle.
Le camp, on se souvient. Je revis. Nouvelle adresse. Un autre amour. Avec l'ivresse des nouveaux jours. Mêler l'espoir et l'aventure aux vieilles histoires qu'ont la peau dure. Mon cœur qui bat sous une enseigne. Je regarde là plus, rien ne saigne. Je re-aime, y a plus d'avant. Je sors de l'œuf, c'est quand maintenant. Je suis tout neuf, je ne sais rien. Tout me rétonne, je me sens bien. À qui j'en donne ces rendez-vous? Là où j'étais, si c'est chez nous, je vous reconnais.
Voilà, voilà, celle de Madame le maire. Voilà, c'est ça.
Jacqueline, combien vous avez eu de médailles?
Alors, ben, j'ai d'abord eu, tout de suite après la libération, j'ai eu la Croix de guerre, la médaille du combattant, la médaille des internés résistants. Alors après, j'ai eu la Croix des évadés, avec justification forcément de l'évasion. Je crois que j'en ai cinq. Cinq avec la Légion d'honneur. J'ai été arrêtée en avril 41. Oui, puisque j'avais 17 ans, je suis née en 23. J'étais la secrétaire des Jeunes Filles de France d'Orléans. On était Jeunes Filles de France et Jeunesse communiste. Et ben là, on fait des distributions de tracts contre l'occupant nazi. On était peut-être 3-4 filles, et puis les gars, ils devaient être 4 ou 5, et on a tous été arrêtés. Vous voyez, je savais que j'avais des risques quand on est rentré dans la résistance, mais je ne le faisais pas pour la gloriole, pour dire oh là là, comme des fois des jeunes sont enthousiastes. Et qui... Non, non, je pense que mes parents m'ont vraiment bien inculqué ça. Je n'allais pas comme ça, mais il fallait que ça réussisse. Ben, comme quand je me suis évadée, il fallait que ça réussisse. Vous ne me voyez pas faire ça? Si, je pense bien. Vous auriez peut-être fait la même chose. Hein.
Il faut espérer qu'on aurait fait la même chose aujourd'hui. Jacqueline, c'est une des, ça fait partie des ancêtres de là-bas si j'y suis. Elle a 82 ans, Jacqueline. Vous avez compris, presque tout compris déjà. Elle était dans la résistance. Elle fait penser au vers fameux, c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Et ben voilà, l'histoire d'une résistante, mais l'histoire du moment où elle a fait la belle, le moment où elle s'est barrée, le moment où elle s'est cassée, le moment de la liberté, le moment où on retrouve la liberté, mais pas pour rien. Aujourd'hui, on va retrouver plusieurs histoires comme ça, de jeunes, de moins jeunes, d'ici ou d'ailleurs, le moment où on fait la belle. Jacqueline.
Je fais donc alors, la prison d'Orléans, Châteaubriand, Gaillon et Lalande, oui, puisque c'est de là que je me suis évadée. 6 juin 43. Alors ça, je sais que c'est 43. Parce que mon père était né un 6 juin. Après, il y a eu le débarquement. Bon, enfin, vous voyez, 6 juin, ça. La date, celle-là, je n'oublierai jamais.
Quand est-ce que naît l'idée de s'évader?
Toujours, mais parce que dans ce camp-là, il y avait nettement plus de facilité. Toujours, on aspire à la liberté. D'abord pour retrouver la liberté et pour reprendre le combat dans la résistance. Ils m'ont piqué pour ça, mais moi, je veux continuer ça. Donc le jour, l'évasion décidée, je pars le soir, l'appel du soir, j'étais là. Je suis partie vers minuit, je crois, quelque chose comme ça.
Qu'est-ce que vous éprouvez comme sentiment le soir quand vous partez?
Quand même, déjà de laisser mes copines, hein, de dire, bon, ben moi ça va, de me dire pourvu que je réussisse, hein, parce que c'est quand même un pis-aller. Enfin, c'est peut-être pas le mot, enfin, bon, c'est quand même une grosse chose, le espoir de réussir, sinon je pars pas. Si j'ai peur, je pars pas. Bon, j'ai pas peur, je pars. Et après, j'arrive alors à la rangée de barbelés. Alors, comme il y avait de l'herbe en bas, puis les barbelés, ben, ils s'étaient emmêlés, ils poussaient en même temps que la terre remontait. Alors, je me suis mise sur le dos, et puis j'arrachais. Et puis, quand j'ai fini ça...
Donc, vous devez traverser, en fait, plusieurs haies de barbelés. Oui, vous passez par-dessous.
J'arrive après, alors là, je suis sur la route. Ou sur la route, il y a un gendarme. Alors, qui se croise, et qui après retourne. Ils font la ronde. Alors, au moment, j'ai profité du moment où ils étaient dos à dos. Eux, ils m'ont pas vu. Mais ça a fait quand même un peu de bruit. Et il y avait des chiens de l'autre côté. Eux, ils ont aboyé. Alors, les autres, ça les a un peu alertés. Et alors, moi, je me suis mis dans l'ombre d'un poteau. Je me suis alignée là. puis j'ai pu bouger. Et le chien, il est arrivé jusqu'à moi. Alors, comme j'adore l'humaine en plus, mais enfin, naturellement, je savais pas, j'aurais pu, le chien, il aurait pu me mordre sans être un méchant chien. J'ai attendu un petit moment quand même. Bon, alors j'ai quand même pu m'en sortir. Et mon ami m'attendait dans un fossé sur la route, qui était un des amis de mes parents, qui lui avait déjà été prisonnier de guerre, s'était évadé de prisonnier de guerre, qui avait déjà repris le combat dans la résistance. Et c'est lui qui m'attendait dehors, lui. Tout d'un coup, j'entendais... Il m'a sifflé, bon, alors là... Et puis, bon, après, on est parti pour arriver à la gare de Montbazon, au moment pile où le train arrivait. Ils m'ont mis dans le wagon aux marchandises. Et dans le wagon de marchandises, il y avait des camemberts. Je n'aime pas le fromage. Et les camemberts, mais c'était quand je suis quand même pas trop héroïque d'avoir fait ça, parce que les camemberts, vous savez, à l'époque, c'était pas le bon camembert bien fait comme maintenant. Ça, c'est les anecdotes. Et on descend à une gare avant Châteauroux, où là, il y avait des employés de chemin de fer qui nous attendaient avec deux vélos. Et nous deux, on s'en va à Châteauroux. Là, c'est là que j'avais ma planque, des gens qui m'attendaient, des amis à lui. C'était bien organisé, hein.
Quand est-ce que vous pensez être vraiment libre ?
Non, c'est vraiment quand je suis arrivée à Châteauroux que là, je suis dans cette famille. Alors là, disons, des flageolets à la crème, avec de la bonne crème, de la vraie de vraie, hein. Pas de la... Mais bien, c'était bon, alors là, puis j'étais bien nourrie, hein. Je revois vaguement la ferme, je revois pas grand-chose, hein. Parce que je sortais pas. Je sortais pas. J'ai toujours peur que ça vous rentre dans l'œil, moi, votre petite mèche. Ça vous chatouille pas, non ?
Un petit peu.
Ah ben, vous pourriez être ma petite fille. Oui, ma petite fille, oui. Votre grand-mère, elle a une grand-mère.
Oui.
Elle a quel âge ?
Elle a 80 ans.
Ah oui, ben oui,
pour
oui.
Oui.
Et puis, qu'est-ce que je lui disais ? Oui, et puis alors après.
Une fois que vous êtes à Châteauroux, vous avez la sensation d'avoir réussi votre évasion ?
Oui, d'être libre.
Ben, on ressent qu'on est libre, qu'on a réussi ce que j'ai voulu faire. Je suis pas fière, je suis contente.
Voilà. Donc, c'est comme ça que vous êtes fait la belle.
Voilà, fait la belle. Je me suis fait la belle. Il y a un film comme ça. Hein.
Je m'appelle Daouda Aou, de la République islamique de Mauritanie. Je suis journaliste demandeur d'asile en France.
Et là, on est donc dans la maison du journaliste. Vous êtes hébergé ici ?
Oui, je suis hébergé à la maison du journaliste depuis janvier 2005. Depuis le 3 janvier, je suis là.
Daouda, il a 23 ans. Jacqueline, qu'on vient d'entendre, elle a 82 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous les deux ? Eh bien, d'avoir fait la belle. Le jour où on sauve, le jour où on se tire, le jour où on choisit la liberté, où il faut, pour des raisons... on est poussé, parfois, ou attiré par une lutte indispensable, comme c'était le cas pour Jacqueline. Et là, Daouda, donc, il est réfugié à la Maison des Journalistes. C'est une maison qui a été créée il y a peu de temps, qui reçoit les journalistes qui sont en exil en France et qui ont dû fuir leur pays pour diverses raisons. Voilà les raisons de Daouda.
Elle est bien la chambre. Il y a un lit, deux commodes, il y a une armoire et une table de travail.
Votre journal, il s'appelait comment ?
Al-Atifl. Bon, c'est un journal qui parle que de la pédagogie et de l'enfant. Quand on a commencé à parler du refus de scolarisation des filles, ça a commencé au tourner au vinaigre. Et j'ai écrit un article sur la pédophilie. Et le problème de la pédophilie en Mauritanie, c'est devenu, surtout en Afrique occidentale, c'est devenu de plus en plus aigu, quoi. Soi-disant, tu as le droit de... C'est la religion, tu as le droit de marier une fille qui a 13 ans et tout. Alors qu'ils profitent, quoi. Ils font n'importe quoi avec les filles, tu vois. Et j'ai commencé à faire bouger les choses. Ça a commencé à gêner parce que les gens, ils vont se dire que celui-là, il commence à me taper sur les nerfs. Et malheureusement, ça a tourné mal. Et là, la police est venue à la maison, ils m'ont pris, ils m'ont emmené au commissariat central. Et du commissariat central, ils m'ont amené directement en prison. Le fait d'être traîné comme ça, battu, torturé, tu vois.
C'est une immense cicatrice sur votre main.
Ça, c'est avec un couteau qu'ils l'ont fait. J'ai fait 4 mois de prison. Et le pire, c'est mon père, il est décédé alors que j'étais en prison. J'étais même pas au courant. Il était mort le 29 mars, c'est par crise cardiaque. Je me suis senti un peu coupable. Je dis, c'est à cause de moi que tout ça s'est arrivé. Et lui, à un moment donné, il m'avait dit, moi, si c'était moi, j'avais arrêté, quoi. Ça vaut pas, parce que tu peux pas lutter contre ce pouvoir-là. Ils sont trop puissants.
Et vous êtes fait la belle de la Mauritanie? Vous êtes parti, avez fui?
J'ai fui, parce que là, la Mauritanie, c'est un beau pays. Mais côté, il y a que côté pouvoir que ça bouge pas, quoi. Ça en manque énormément. Quand je suis sorti, le directeur de publication, il a vu quelqu'un, il a dit, le jeune homme là, c'est quelqu'un qui est très têtu. Donc il va se faire tuer, et moi, c'est quelqu'un que j'adore. Je veux que tu le fasses sortir du pays. Ils m'ont dit, bon, maintenant, on fait tout pour que tu puisses partir en France. Et quand j'ai accepté, ils m'ont emmené vers le gars qui devait m'emmener. Le monsieur, c'est un passeur, quoi. Il me dit, 6h du matin, tu pars. J'avais que ma carte d'identité et mon extrait de naissance sur moi. J'avais 2 jeans et un t-shirt, quoi, tu vois. C'était en juillet. Et là, quand je suis venu à Ouagadougou, c'est l'autre grande ville de la Mauritanie, je suis resté, je pense, une dizaine de jours. Et là, il a parlé avec le gars qui nous amenait jusqu'au Havre.
Et vous étiez combien à peu près?
Nous, on était 6. Quand on a embarqué sur le bateau-là pour le Havre, le monsieur nous disait que ouais, bon, de toute façon, ça va bien se passer. On va vous donner à manger. Effectivement, il nous donnait à manger, à boire, à discuter.
Mais c'était un gros bateau? C'était un bateau?
Non, c'est un gros bateau, oui. C'est un gros bateau. Il transportait des conteneurs et tout. Bon, là...
Dans ces cas-là, comment ça se passe? Est-ce qu'on a peur? Est-ce que...
Moi, le problème, je sais nager. Mais le problème, j'avais peur. Et c'était la première fois que je rentre dans un bateau pour faire un trajet, quoi, tu vois. Moi, quand je rentrais dans un bateau, c'était les chaloupes, là. Bon, c'était pas pour faire la haute mer et tout, quoi. Et là, on a fait 15 jours, mais c'était beaucoup plus galère même que la prison. Nous, on était là, c'était une chambre avec 4 lits superposés et tout. Mais c'était bien, quoi. Mais le problème, c'est que comme moi, j'avais le mal de mer, je vomissais tout le temps. Même si je bois un coup d'eau, je vomis. Et ça, j'avais trop mal. À un moment donné, je vomissais quelque chose de très vert. J'ai dit, moi, je vais mourir. Bon, j'ai résisté. Ça fait 15 jours de voyage. Hein. C'est pourquoi je dis, moi, j'ai galéré en prison, c'est vrai. Mais là, non, ça, je trouve que cette galère-là, c'est pire, quoi.
Quand vous arrivez au Havre, vous savez où vous êtes? Vous êtes heureux d'être parti de Mauritanie?
Quand on est arrivé au Havre et tout, je me suis retrouvé bêtement dehors comme ça, mais sans contrôle, sans rien. Et puis, il y a un jeune Français, et jusqu'à présent, on s'appelle et tout. Il m'a vu, j'étais dégueulasse. Et là, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué tout. Et je lui ai dit, tu me déposes dans une gare, et là, je vais essayer de voir, quoi. Celui qui m'a amené de Havre à Paris dans sa voiture. Et le jeune là, il s'appelle Jean-Marc. C'est lui qui m'a donné le moral, quoi. Par exemple, j'avais tellement froid. C'est lui qui m'a donné son pull, je l'ai mis. Après, il a acheté un kebab, c'était la première fois que je mange du kebab. Et quand on discutait, et lui, c'est quelqu'un qui a fait la Mauritanie. Et tu vois, quand tu es dans des situations pareilles, tu vois quelqu'un qui parle de chez toi, tu te dis, mais voilà, ça, c'est le sauveur. Il me semblait que j'avais une nouvelle vie, quoi.
Le cœur a sa mémoire. Il nous conte l'histoire des souvenirs enfouis au creux de notre vie. Il refait le chemin, nous tenant par la main. Le chemin de l'exil dans les parfums d'avril.
Et quand il plie bagage, il refait le voyage que nous avons suivi en quittant le pays, laissant sur le chemin tous ceux auxquels on tient, sans espoir de retour, tous ces romans d'amour.
On est devant les Baumettes, voilà. Comme vous le voyez, c'est... rien ne ressemble plus à une prison qu'une autre prison. Et là, cette prison-là, bon, ben, elle n'a pas changé depuis... ben, depuis toujours, je crois. Je suis sorti de prison en 1988. Ça fait donc... ça va faire 17 ans. Tiens, on va peut-être grimper cette route, là.
Et ça faisait combien de temps que vous étiez en prison ?
Alors, ça s'est effectué en deux fois, à savoir une première fois arrêté en 1962. Vous voyez, je porte bien mon âge. Hein. 62, j'avais 20 ans. Non, arrêté, condamné à 20 ans de réclusion. Sorti en 77. Réincarcéré dans le cadre de l'affaire Mesrine en 1979. Et j'ai effectué encore 10 ans. Ce qui fait 25 ans. 25 ans, un quart de siècle. Voilà.
Et bien, c'était pourquoi la première incarcération, les 20 ans ?
Eh bien, bande organisée, avec ses conséquences aggravantes, association de malfaiteurs, entreprise susceptible de déstabiliser l'État. Et nous opérions l'expropriation, la reprise directe de la marchandise et une redistribution de cette marchandise dans les quartiers nord de Marseille.
C'était donc, quoi comme marchandise ?
Oh, de la bouffe, des fringues, des trucs très terre à terre, c'est-à-dire tout ce qui nous manquait. Et même au-delà, ne déconnons pas, on volait, on faisait du vol une pratique politique.
Tarif, 20 ans. C'est Charlie Boer, vous l'avez peut-être reconnu, on l'avait déjà rencontré dans La Basse, si j'y suis. Et lui aussi, évidemment, dans le genre faire la belle, se tirer, se casser, se débiner et prendre la tangente. Il en connaît un rayon. Et il est l'auteur d'un livre fameux qui s'appelle Fracture d'une vie, aux éditions Agone. Il nous a raconté déjà sa vie, son père qui était un résistant communiste, et puis ses 8 tentatives d'évasion. 8 tentatives d'évasion.
On s'évade toujours de prison. Lorsqu'on opère une fixation sur l'évasion, il suffit de... et bien avoir les moyens pour la persuasion, pour la manipulation, disons ça comme ça. Là, j'évoque les aspects un peu crapuleux, hein, et pervers, hein, de ce qu'on appelle la belle. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont ô combien élogieux et magnifiques. Hein.
Des Baumettes, vous avez essayé d'en partir ?
Alors là, j'ai essayé plusieurs fois, et d'une façon, non pas rocambolesque, mais assez... qui sortait des pratiques classiques, hein, de l'évasion. Nous, notre plan était de scier les barreaux. J'avais réussi à me faire rentrer des lames de scie. Je me trouvais au dernier étage d'un des bâtiments là, qu'on ne voit pas, mais on va le voir tout à l'heure. Hein. Et ce bâtiment surplombe, étant donné qu'ils font 4 étages, surplombe les murs d'enceinte. Le plan consistait à scier les barreaux. Faut faire attention aussi bien aux gardiens que, c'est-à-dire, faut pas faire de bruit, on n'est pas à l'usine, hein, c'est évident. De même qu'à certains détenus qui, j'appelle ça les coursiers de la grâce ou de la remise de peine, et qui risquent de vous dénoncer. Mais enfin, on avait réussi à scier les barreaux en sciant 1 mm par jour, en le camouflant avec du savon, de la peinture couleur des barreaux. Hein, et donc, ça avait l'aspect d'un barreau entier. Ensuite, je vous dis comment sortir la cellule. Donc, on lançait à l'extérieur, et nous avions des complices à l'extérieur, dans la colline là que vous voyez là. On lançait à l'aide d'un lance-pierre fabriqué artisanal, hein, bien sûr, hein, un fil de fer en forme de fronde, bien sûr, avec du fil de pêche que je m'étais fait envoyer avec les lames de scie, le fil de pêche déroulé dans la cellule pour qu'il puisse se dérouler le plus facilement possible, c'est-à-dire en serpentin, voilà, tout, dans toute la cellule, en serpentin, une pierre, et avec lance-pierre, boum, on envoyait donc ce fil de pêche à l'extérieur. Ce qui avait été le cas. À l'extérieur, ils attachaient une corde, un filin d'alpiniste. Le filin d'alpiniste, on le tirait et on passait, bon, ça c'était vraiment canon, hein, avec une anse de seau, un seau, vous savez, ces seaux dont on se sert pour transporter de l'eau, quoi, hein, et ça servait de téléphérique, de la cellule jusqu'à l'extérieur, jusqu'à dehors. On passait au-dessus des miradors, dans l'obscurité, c'est-à-dire comme un téléphérique. Et là, le must, c'était que cette partie-là de la prison, bien évidemment, les phares qu'il y a qui éclairent la prison à Giorno durant toute la nuit, pour empêcher les évasions d'ailleurs, ben, ça éclaire le sol, ça n'éclaire pas le ciel. Hein. Et donc nous, on passait dans l'obscurité. Et les surveillants, en règle générale, regardent plutôt ce qui se passe, ben, ce pourquoi ils sont payés d'ailleurs, hein, à surveiller ben, quelqu'un qui s'approche du mur, mais pas dans les airs quand même. Et puis, de toute façon, ça se passait tellement vite, ça devait se passer tellement vite, qu'ils n'avaient pas le temps de réagir. Alors que s'est-il passé pour que ça ait manqué son effet? Eh bien, tout simplement, le con qui était dans la cellule à côté et qui était lié avec moi à cette évasion, se fait voir en train de scier son barreau. C'est-à-dire les derniers millimètres qui restaient du barreau. Et là, ça a été... Ben, nous étions attendus, quoi. Les gardiens sont montés sur les toits avec des fusils et compagnie. Ils nous ont braqués. On n'a pas pu sortir, quoi. Voilà. Les gens à l'extérieur. Les gardiens, en montant sur les toits, se sont aperçus qu'il y avait des gens à l'extérieur. Ils ont prévenu la police. La police est arrivée. Les gens sont partis, ça a été assez mouvementé d'ailleurs comme fuite, ils ont réussi à s'enfuir, hein. Mais ça a été assez mouvementé, et nous on n'a pas pu réaliser cette belle évasion qui était très très belle, hein, à savoir, c'était pas l'hélicoptère, parce que bon, c'était pas en pratique à cette époque dont je vous parle, encore que c'était pas au début du siècle, faut pas déconner, mais enfin, on partait par les airs, et effectivement c'était la belle des belles par les airs, quoi, voilà, hein, voilà.
C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leur cellule rêvent de creuser un tunnel.
Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère. Si au moins j'avais un canif.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche. 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout cas, j'ajoute une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève.
T'as 18 ans, c'est ça?
Oui, j'ai eu 18 ans le 10 juillet.
Tu viens de Mayotte?
Oui, j'ai grandi là-bas. Je suis née actuellement aux Comores. Là, après, je suis restée là-bas. Ben, on est 5 filles chez nous, un seul garçon. Et du coup, ça s'est toujours bien passé jusqu'au jour où j'ai eu à mes 11 ans que j'ai été violée. Et, ça a tout perturbé. Et jusqu'à maintenant, je me pose la question, pourquoi mes parents m'ont laissé sortir? Pourquoi ils ne m'ont pas protégée?
La personne qui t'a violée, tes parents la connaissaient?
Si, il le connaissait parce qu'en fait, je travaillais chez lui, je faisais babysitter à son fils tout le week-end. Ils avaient confiance en lui et après, ben, ça s'est parti comme ça. Un mois après le viol, j'avais tout le monde qui se moquait de moi dans le quartier. J'avais honte de moi, de l'avoir pas dit à mes parents tout de suite, mais de l'avoir caché jusqu'à la mère de ma meilleure copine est partie en parler à ma mère. Après, je me suis dit, là, je peux plus rester chez moi parce que je peux plus regarder mes parents en face. Je me suis dit, je m'en vais, j'en peux plus. J'ai pas vraiment pensé à ça, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit juste à... qu'aujourd'hui, je peux plus sortir de chez moi. C'est pas du tout une vie de m'enfermer chez moi. Après, je me suis dit, un bonsoir, j'ai appelé ma copine et tout. On s'est dit, on s'en va. Et le lendemain matin, mes parents, quand ils sont réveillés, j'étais plus là.
Rosa, elle s'appelle. Et oui, elle est de Mayotte, elle est des Comores. Et en 1 minute 23, elle vient de nous raconter une histoire terrifiante. Et bon, voilà, elle aussi a fui. Elle aussi a fait la belle. Elle aussi, comme ce qu'on vient d'entendre, comme Jacqueline, comme Daouda, comme Charlie Bauer, un beau matin, une belle nuit, s'est tirée.
J'avais mon sac de l'école. Ben, j'ai fait genre, je me mets cahier dedans et j'ai mis des vêtements, un truc à manger. Il y avait des sardines au piment chez moi, j'en ai mis, et trois pantalons et quelques hauts et des pulls. Vers 4h du matin, il y a mes parents qui s'apprêtent à aller faire la prière, mais la porte était ouverte et moi je suis partie. Parce qu'en fait, chez nous, quand on fait la prière, même si on est en train de tuer quelqu'un à côté, mais on ne peut plus s'arrêter, on ne peut plus couper sa prière. Ben même si mes parents m'avaient vu sortir, ils ne pouvaient rien faire. Moi-même, je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la soirée parce que je savais que si je m'endors, le coup était grillé. J'étais obligée de rester en veille jusqu'à 4h du matin et partir.
Tu as pensé à quoi jusqu'à 4h du matin?
Penser à tout ce qui s'est passé, à quelles réactions ils vont réagir mes parents, comment ils vont faire. Moi qui étais la grande fille, comment se dire, mais elle a laissé tomber ses études parce que tout le monde se moquait d'elle et tout, et elle est partie. Qu'est-ce qui allait se passer? Je suis partie quand même. Et j'ai pas du tout laissé un mot, j'ai rien laissé, je suis partie comme ça. J'ai juste posé mes clés sur la table et au salon et je suis partie.
Mais poser ses clés sur une table, ça veut dire qu'on va jamais revenir?
Non, c'est parfaitement ça, mais pour moi, j'ai posé les clés. Au moins, ils puissent trouver un indice comme quoi je suis pas dans ma chambre et que je suis partie. Et ne pas reculer en arrière. C'est de partir, aller droit devant, et je suis partie droit devant. Eh oui.
Et quand t'as passé le pas de la porte, qu'est-ce que t'as ressenti?
J'ai ressenti un vide, j'ai ressenti un manque, parce que je me suis dit, je suis passée une étape très difficile. En sortant de chez moi, il n'y avait personne. Je sentais déjà une liberté pour moi, je me sentais bien. C'est comme si j'avais poussé des ailes. Si je dis ça, c'est parce que je sors de chez moi, c'était à 4h du matin, il n'y a personne dans la rue, il n'y a personne qui dit « Ah, celle-là, elle s'est fait violer, nani, etc. » et tout. Il n'y avait pas mes parents qui allaient me crier par derrière. Il n'y avait personne. C'est comme si j'avais le monde en moi toute seule. Il n'y avait que moi et je me suis sentie pousser des ailes. Après, je suis montée directement dans la rue, j'ai regardé vite fait ma maison, je suis partie. Moi, je me suis dit, je l'ai regardé une dernière fois et je pars.
Vous savez, je pense que tout détenu, même quand il est détenu ne serait-ce que 24 heures, il a envie de s'enfuir. Un jour même, je suis allé voir un directeur de prison, et le directeur m'a dit « Mais c'est tout à fait votre rôle de vous évader. C'est le rôle de tous les détenus. Quelqu'un qui est privé de liberté cherche à la reconquérir par tous les moyens. C'est tout à fait naturel. C'est un appel de la liberté. » Donc je suis parti et puis voilà. J'étais dans le milieu des bars, des boîtes de nuit, ce qui m'a mené à fréquenter toutes sortes de personnages de la nuit, du milieu. Et donc, un jour, on m'a incarcéré. Et pour protester contre cette incarcération, je suis tombé gravement malade. On m'a hospitalisé, puis me sentant mieux, au bout de quelques temps, j'ai profité d'une défaillance dans le service de surveillance pour prendre la fuite et partir. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait une voiture qui m'attendait, Mais c'est vrai, il y avait une voiture qui m'attendait et... Je me rappelle que je suis parti les pantoufles aux pieds, en pyjama, au mois de janvier, et que la voiture dans laquelle je me trouvais est tombée en panne en plein centre de la ville. À 7 heures du soir, j'avais une barbe que je ne m'étais pas rasée depuis plusieurs mois. Tout le monde disait, il me prenait pour un fou. Et alors les gens me regardaient, moi je sifflais, je faisais semblant de chercher mon chien. Alors je faisais... Puis je me suis présenté chez des parents que j'avais pas trop loin. J'ai pu rester quelques jours chez eux, puis comme ils étaient trop parents, j'ai préféré le lendemain reprendre une autre cachette dans laquelle je suis resté encore quelques temps avant d'avoir l'occasion de partir dans ce pays étranger là, qui était l'Italie. Où je suis resté quand même presque 2 ans. J'avais un boulot, je travaillais tranquille, et puis un beau jour, on m'est retombé dessus, et puis on m'a encore mis encore au frais, si je puis dire. C'était en maison centrale. Et puis on s'était amusé avec faire une cassette avec un co-détenu qui était avec moi. Et cette cassette, je l'avais envoyée pour la Noël à ma mère. J'avais pu la sortir parce qu'à cette époque-là, les magnétophones, tout ça, c'était interdit dans les prisons. Mmh. Et nous, on avait trafiqué un poste en électro, en magnétophone. Voilà, on s'évertue à...
C'est une évasion un petit peu.
Tout à fait, mais tout est évasion. La musique est une évasion, la lecture est une évasion, la télévision, vous savez, la télévision, c'est pas tellement une évasion, mais la radio est une évasion. La radio est une évasion. Tout devient évasion. La vie même est évasion. Même quand on est dehors, on voudrait s'évader quelquefois aussi de... tout le monde voudrait quelquefois vivre par moments d'une autre façon.
Il faut toujours s'évader. Quand vous êtes dans une situation d'obligation, de coercition, il faut s'évader. Il n'y a pas d'autres solutions. Il faut se sauver. Comme vous dites, il faut se faire la belle. Oui. Après, tout reste à définir, tout reste à discuter. Mais non. Il ne faut jamais accepter d'être enfermé, d'être réprimé. Non. C'est la liberté, pas la libération. Ça peut être la liberté, mais pas la libération.
Voilà, Rossella considère qu'il faut toujours s'évader. On le savait, on s'en doute, mais pas toujours. En fait, face à l'obstacle, face au défi, face à l'ennemi, on a 3 attitudes, pas plus que 3 attitudes. Il y a celle qui consiste à se battre, il y a celle qui consiste à retourner la difficulté contre soi-même et s'auto-détruire, et puis il y a la fuite. Et il y a un livre fameux que vous connaissez qui était l'éloge de la fuite. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et à travers tous ces exemples, toutes ces histoires, il y en a beaucoup d'autres, vous en connaissez, vous en avez peut-être vécu, où vous avez, comme nous tous, rêvé de vivre cette rupture, cette évasion. On fait l'éloge permanente de l'évasion, du plaisir, de l'évasion d'être ailleurs, etc. Et cette idée que, où qu'on soit, il y a toujours une liberté à conquérir, même quand on se croit libre. C'est ce que croyait Rossella.
Je suis italienne de la région de Venise, d'une petite ville qui s'appelle Vicenza. Je suis arrivée ici en printemps de 80. Et je suis partie d'Italie parce que je faisais partie d'une mouvance politique connue comme l'autonomie. Chez nous, on appelait ça l'autonomie ouvrière, qui était poursuivie comme une mouvance terroriste, pas dans le sens propre du terme, mais qui était reconnue pour avoir commis des actes répréhensibles. Donc, on avait des mandats d'arrestation. Et donc, je suis partie en 80 pour ne pas aller en prison. En 80, j'avais 28 ans. L'inculpation était organisation d'insurrection armée contre l'État. On occupait les maisons, on occupait des espaces pour les gens qui n'avaient pas de maison, on faisait des luttes dans les usines, dans les écoles, etc. Donc on était très connus. Donc nous nous sommes retrouvés recherchés, et donc dans une situation de clandestinité. Et nous avons décidé à plusieurs que pour nous, la militance politique ne pouvait plus continuer parce que notre choix n'était pas un choix de clandestinité. Et avec mon ex-mari, on a dit non, on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on s'en aille. Le jour qu'on est parti, oh, ça c'est horrible parce qu'on partait de la station de Pardoux, la gare de Pardoux était hyper contrôlée. Finalement, on a la dernière minute, on s'est planté parce qu'il y avait eu le changement d'heure d'hiver à l'heure d'été. Je ne sais pas pourquoi on ne s'était pas rendu compte. On s'est réveillé, on est allé, on s'est rendu compte qu'on avait raté le train quand on a vu l'heure. À ce moment-là, on risquait de tout perdre, tous les différents rendez-vous étaient décalés. Donc, on est revenu à la maison, absolument paniqué. On a regardé et on a heureusement trouvé un bus qui nous aurait amené à cet endroit, à leur volu. Donc, on est reparti de la maison avec nos valises. Il n'y avait pas grand-chose. On avait chacun une valise. Parce qu'il fallait que ça donne l'impression de partir en vacances. Ça faisait déjà depuis un bon moment qu'on avait changé de couleur de cheveux, que mon ex-mari avait des moustaches, alors qu'il n'avait jamais eu de moustaches. Enfin, des choses pareilles. Moi, j'avais des lunettes qui n'étaient pas des vraies lunettes. Mais bon, on ne peut pas modifier beaucoup son apparence.
Vous vous rappelez du nom que vous aviez ce jour-là ou?
Oui, bien sûr que je me rappelle de ce nom. Je me le suis porté derrière pendant un certain temps. C'était Angela. Une de mes copines féministes m'avait donné ses papiers. Donc, on est allé à Vienne. On est resté à Vienne 2 jours. Parce que si jamais ils nous avaient suivis ou ils voulaient nous prendre, ben, ils pouvaient nous prendre. Et après, on partait et on traversait toute l'Allemagne et on arrivait ensuite en France. On est arrivé à Paris. Et à Paris, on avait donc une adresse et un numéro de téléphone. On avait très bien aménagé notre voyage d'une façon tellement débile que quand j'y pense, je me dis que franchement, il fallait être absolument inconscient parce qu'on savait que la personne qui devait nous héberger n'était pas là. Mais normalement, elle aurait dû laisser les clés dans un endroit précis. Le problème, c'est que l'arrivée en France avait été organisée par quelqu'un qui était, à mon avis, quelqu'un qui avait lu trop de bouquins d'espionnage. Et donc, qu'il avait décidé, c'est un truc débile, et il avait décidé qu'on aurait su où la clé était en lisant un tel livre, à telle page, les phrases, enfin, un truc. On a essayé et je ne sais pas, je crois qu'il s'était trompé, ou de page ou de nombre de lignes, et on ne savait absolument pas où elle avait laissé les clés. Et donc, on a été là pendant un certain temps. On est resté 2 mois, je crois, dans cet appartement. Mais là, j'ai eu la conscience pour la première fois que j'abandonnais. Et c'est ça le problème, que j'abandonnais volontairement, délibérément, tout ce que j'avais construit dans ma vie parce que je pensais que c'était plus possible. Et c'est là la souffrance. C'est là quand vous vous dites... Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais été, ce que j'étais, ce que j'avais fait, les gens que j'avais vus, celles qui étaient vivantes et celles qui étaient mortes. Il a fallu que le temps passe pour affronter cette souffrance et comprendre et voir ce que pouvait me donner. Mais vous ne faites pas le deuil, il n'y a pas d'enterrement. Vous avez une mémoire qui est là. Et à chaque fois que vous revenez en arrière, vous aurez la même souffrance. Vous savez, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma liberté.
Vous aviez perdu votre liberté à ce moment-là?
Je l'ai perdue quand je suis partie d'Italie. Savoir qu'on pouvait rêver,
qu'on pouvait même imaginer qu'on pouvait réaliser nos rêves. Et que nos rêves n'étaient pas les rêves de moi, mais les rêves de tout le monde, de tous les autres. Et donc, la liberté, c'est quelque chose pour moi qui tient à ce rêve, à la possibilité de... Mais... J'ai toujours su que j'aurais pu partir en laissant tout. C'était pas ça qui me gênait, c'était laisser mes camarades, mais la vie, là-bas.
Merci à tous. On se retrouve demain à 15h pour La Basse si j'y suis. Il est 16h sur France Inter et je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut.